Avoir un commentaire négatif sur son site web, sa page Facebook ou tout autre réseau social n'est jamais agréable, mais comment y répondre? C'est ce dont on discute avec Cindy Rivard, stratège, conseillère et formatrice chez Oyer Communication pour la chronique « On a de la suite dans les idées ». Une chronique, comme vous le savez, sur la communication et son impact sur nos réussites, qu'elles soient professionnelles ou sociales. Bonjour Cindy.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les commentaires négatifs?
Bien, d'abord, il y a vraiment deux catégories de commentaires négatifs. Premièrement, il y a ceux qui s'adressent à des entreprises et qui vont être traités selon une bonne stratégie de service à la clientèle. Ensuite, il y a ceux aussi qui s'adressent aux individus puis qui relèvent plus de la cyberintimidation, du cyberharcèlement dont peut être victime aussi une organisation. Mm-hmm. Dans le cadre de la chronique actuellement, je vais aborder plus précisément la réponse aux commentaires négatifs dans un contexte de service à la clientèle. Parce que la cyberintimidation, le cyberharcèlement, qui peuvent avoir des conséquences très graves, mm-hmm. ça relève du code criminel canadien, puis c'est des cas plus complexes à traiter. Donc, pour ceux qui voudraient plus d'informations concernant la cyberintimidation puis le cyberharcèlement, je les invite à consulter le site web de la Sécurité publique du gouvernement du Québec. On décrit vraiment ce que c'est, comment le prévenir, puis qui contacter en cas de besoin.
Oui, alors je comprends, la cyberintimidation, là, c'est un tout autre registre, mais c'est bien quand même d'en glisser un mot pour que les gens sachent où s'informer.
Oui, puis il y a aussi le site webaverti.ca qui offre plein d'informations pour les parents relativement à l'utilisation du web pour leur enfant.
Alors, on va noter, c'est le webaverti.ca. Alors maintenant, on va parler des commentaires négatifs et des critiques souvent nombreuses sur le web. Je pense que les gens se donnent la permission de parler plus ouvertement là, quand il y a un écran entre eux et l'objet de leur critique.
Tout à fait, Caroline. Et c'est pas toujours pour le mieux, malheureusement. D'ailleurs, il y a une première poursuite judiciaire au Québec suite à un commentaire négatif d'un consommateur. L'entreprise victime des commentaires a décidé de poursuivre la personne pour 20 000 $. On ne connaît pas le résultat, évidemment, ça vient juste de commencer, mais selon l'aboutissement de cette poursuite-là, j'imagine que ça va servir certainement d'exemple mm-hmm. concernant les limites à ne pas franchir.
Alors, on va sûrement surveiller ça et peut-être que ça va aider justement à modérer le ton des commentaires.
Oui, parce qu'il y a aussi deux types de commentaires ici aussi. Il y a les critiques constructives et les commentaires malveillants.
Et ils ne se traitent pas de la même façon?
Non, en effet. Si c'est une critique qui est justifiée et constructive, il va falloir y répondre. On y répond tout simplement, alors que pour un commentaire malveillant, c'est plus nuancé.
On va commencer par la critique constructive.
La première règle, dans tous les cas, c'est de prendre le temps de respirer un bon coup, parce que c'est jamais agréable de recevoir une critique, même quand elle est bien construite. Donc, on a souvent tendance à vouloir répondre sur le champ, puis essayer de se justifier, puis de se donner raison. Puis c'est là que des erreurs peuvent se produire, puis transformer une critique constructive en une critique tout court.
Donc, première étape, on prend un moment pour digérer la critique et réfléchir à sa réponse.
C'est exactement ça, Caroline. C'est important de rester courtois dans sa réponse, puis c'est difficile de le faire quand on est en colère ou qu'on est frustré par cette critique-là. Par contre, il ne faut pas prendre... des jours pour réfléchir à sa réponse non plus. Une réponse dans l'heure suivant la critique, c'est très important. Au-delà de ce délai-là, les choses peuvent s'envenimer.
On prend quelques minutes de réflexion, mais on répond rapidement.
C'est ça. Ensuite, c'est important de répondre précisément à la critique. Si vous répondez toujours une réponse pré-mâchée du type « Merci, votre commentaire est important pour nous », ça passe pas. Ça manque de personnalité puis de sincérité.
Oui, comme quand on attend au téléphone puis qu'on se fait dire par une voix enregistrée « Votre appel est important pour nous ».
Oui, c'est plus frustrant qu'autre oui. chose, en fait. Donc, la personnalisation, c'est vraiment pas compliqué. Il suffit de reprendre le commentaire, puis on peut même ajouter le nom de la personne. Par exemple, « Bonjour, Madame Lavertu, merci de nous avoir informé du temps d'attente avant de pouvoir profiter de votre table réservée à notre restaurant ». Ensuite, il ne faut pas avoir peur de s'excuser si on est en faute, puis d'avouer ses torts. Je pourrais continuer en disant « Nous avons effectivement été surpris par l'achalandage à notre établissement jeudi soir dernier ». Puis finalement, on explique les actions qui ont été prises ou qui vont être prises. Donc, dès que nous avons pris conscience de cet achalandage accru, nous avons appelé des employés en renfort.
Mais des situations pour lesquelles nous n'avons pas le contrôle, ça arrive aussi.
Oui. Un spectacle annulé à cause d'une tempête de neige, une panne électrique qui nous empêche d'assurer un service adéquat. Il peut arriver plein de choses hors de notre contrôle. Dans ce cas-là, au moins d'accuser réception de la colère ou de la déception du client, ça va au moins lui donner l'impression d'être écouté et compris. Puis si je continue avec mon exemple, je pourrais terminer en disant « Nous sommes désolés de la situation ».
Et si on a le contrôle?
Bien, c'est le même principe. On prend acte de la plainte, puis on informe des actions qui vont être prises pour corriger la situation. Puis c'est pas la peine d'entrer dans les détails. Si la personne veut des détails, on l'invite à communiquer directement avec nous pour discuter plus longuement en privé. Faut pas oublier que si on a été choqué par la critique reçue, bien la personne qui l'a fait a été choquée par la situation aussi. Il faut éviter à tout prix que la situation dérape en public sur les réseaux. Donc, lui demander de nous contacter en privé, ça va l'obliger à modérer ses transports parce qu'elle n'aura plus l'écran entre vous et elle, puis ça va lui donner le temps de redevenir zen face à la situation. Parce que souvent, les gens vont aussi arrêter leur plainte là. Ils vous appelleront pas. Ce qu'ils avaient besoin, en fait, c'était avant tout d'être entendu et compris.
Et là, qu'est-ce qu'on fait quand la critique est injustifiée ou malveillante?
Bien, il y a différents types de critiques malveillantes, si elle est adressée à une personne en particulier, puis que cette personne-là est nommée ou identifiable même, il est important de modérer le commentaire pour protéger la personne mise en cause. Puis selon le commentaire, on peut aussi le supprimer si on rentre dans la diffamation. À ce moment-là, ben, on rappelle notre politique d'échange sur le réseau en question. On informe qu'on accepte les critiques constructives, mais que tout commentaire diffamatoire est supprimé.
Et là aussi, il faut rester calme.
Absolument. Même si l'autre est grossier ou ridicule, garder son sang-froid, c'est primordial. Cette personne-là va probablement se ridiculiser elle-même de toute façon. Et puis souvent, les membres de notre communauté vont aussi lui faire remarquer que sa critique est hors de propos.
Et là, qu'est-ce qu'on fait avec les trolls, là, tu sais, là, ceux qui n'arrêtent jamais de dire des choses ridicules?
Ça dépend vraiment des situations. D'abord, si c'est du harcèlement, il faut agir, contacter la police ou toute autre organisation qui peut nous aider. Ensuite, si c'est juste fatigant sans être du harcèlement, bien on peut tenter la règle fondamentale pour gérer ce genre de personnes-là, l'ignorance. La plupart du temps, les commentaires sont tellement hors de propos que ça ne mérite même pas une réponse. Ces personnes-là cherchent l'attention et si on répond, bien on leur en donne. Donc, les ignorer jusqu'à temps qu'ils se tannent, c'est la stratégie qui est utilisée dans la plupart des cas. Par contre, bien, chaque cas est unique. Alors, il n'y a pas de réponse universelle à cette question-là. Parfois, les trolls agissent anonymement, mais ils finissent aussi par laisser des traces. Donc, une fois démasqués et confrontés en privé, ça peut aussi les calmer.
Tous tes exemples s'appliquent lorsqu'on peut répondre, mais sur certaines plateformes, on ne peut pas répondre ou même effacer les commentaires diffamatoires.
En effet, et puis c'est le cas en fait avec les avis sur Facebook, on ne peut pas les effacer. On peut y répondre, mais pas les effacer. Si des propos diffamatoires sont exprimés, avisez la personne que vous avez une copie avec une capture d'écran de son commentaire, mais que vous l'invitez à le supprimer parce qu'il est diffamatoire, tout en l'invitant à formuler une critique de façon plus constructive. C'est important de rester ouvert à la critique. Puis si vous ne pouvez pas répondre du tout, votre meilleur atout, c'est d'avoir un service à la clientèle impeccable parce que les bonnes critiques vont avoir préséance puis les internautes sont capables de faire la part des choses.
Dans tous les cas, là, ce sont tous des cas qui sont délicats à régler.
Oui, c'est pourquoi il faut réfléchir aussi à son service à la clientèle en ligne avant qu'il arrive des cas comme ceux-ci. Il faut aussi s'assurer que la personne qui gère les réseaux dans notre entreprise sache quoi répondre. Une politique d'utilisation des réseaux sociaux, c'est pas juste pour dire aux internautes ce qu'on accepte ou non. Ça donne aussi des balises aux employés qui vont se sentir rassurés sur ce qu'ils peuvent répondre ou ne pas répondre.
Et là, j'imagine que c'est un service que tu offres chez Oyer Communication.
Oui, tout à fait. Je peux accompagner les organisations dans l'établissement de leur politique, préparer des guides de services à la clientèle ou simplement des conseils ponctuels quand le besoin se fait sentir.
Alors, si c'est un besoin dans votre organisation, vous pouvez joindre Cindy au 418-938-0654. Et là, dis-moi, Cindy, quel sera le sujet de notre prochaine chronique?
Comment communiquer pour influencer? C'est un sujet qui est vaste, mais on pourra en discuter de quelques trucs pratiques. Ça va donner le goût aux auditeurs d'en savoir plus.
On a de la suite dans les idées. C'est donc un rendez-vous lundi prochain à 11h30. Merci beaucoup, Cindy Rivard, stratège, conseillère et formatrice chez Oyer Communication.
Merci, Caroline.